Leçon 2. Observation, regardez un verset. Objectif de la leçon. 1. Comprendre l'importance d'une lecture attentive de l'écriture. 2. Poser des questions importantes sur chaque verset étudié. 3. Avoir un plan pour une étude systématique de l'écriture. 4. S'entraîner à faire des observations détaillées sur des versets sélectionnés. Introduction. Quand Alain lit la Bible, il termine par une image mentale. Si vous lui demandez de lire et de résumer Marc 1, 29 à 31, il dirait « Jésus quitta la synagogue de Galilée avec quatre disciples, Simon, André, Jacques et Jean. Ils se rendirent chez Simon, dont la belle-mère était malade et avait de la fièvre. Jésus la prit par la main et la fièvre disparut aussitôt. Elle se sentit tellement mieux qu'elle put leur préparer un repas. Elle n'eut même pas besoin de se reposer et de récupérer. Quand Bernard lit la Bible, il lit les mots, mais ne voit que peu de détails. » Si vous demandez à Bernard de lire et de résumer Marc 1, 29 à 31, il dirait « Jésus est allé chez Simon et a guéri quelqu'un ». Lequel de ses lecteurs a observé? Lequel se souviendra le plus longtemps de l'histoire? Quel lecteur possède le plus d'informations sur lesquelles baser une interprétation de cette histoire? La réponse est évidente. Alain a vu ce qui se passe dans Marc 1, 29 à 31. Bernard a lu le chapitre, mais il n'a pas observé. La première étape de l'étude de la Bible est l'observation. À cette étape, nous nous demandons « Que vois-je dans cette portion de l'Écriture ?» La clé d'une interprétation biblique efficace est d'observer autant que possible. Dans cette leçon, nous apprendrons à observer les détails importants d'un verset. Soyez patient quand vous faites cela. Plus vous observez, plus vous avez d'éléments pour l'interprétation. Observation d'un verset. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Que pouvons-nous observer dans un seul verset? Quel est le premier mot? Mais est un mot de liaison qui renvoie au verset précédent. Dans Acte 1, 6, les disciples demandent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Maintenant que tu es ressuscité d'entre les morts, « vas-tu établir ton royaume ?» Jésus répond par deux affirmations. « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments. » Acte 1, 7. C'est la responsabilité du Père. « Mais vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. » C'est votre responsabilité. Qui est impliqué ? Vous. À qui Jésus s'adresse-t-il ? Aux apôtres. Acte 1, 2, 4. Prenez un moment pour vous demander « Qui sont ces apôtres ?» Faites la liste de tout ce que vous savez sur les apôtres. Le fait de savoir de qui parle ce verset illustre le merveilleux pouvoir transformateur de la Pentecôte. Ils sont juifs. Jésus les envoie en Samarie. Ils étaient impuissants à guérir le garçon possédé d'un esprit. Marc 9, 14 à 29. Ils recevront une puissance. Ils ont fui avec crainte à l'arrestation de Jésus. Matthieu 26, 56. Ils seront ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Quel est le verbe de la phrase ? Recevrez. Le verbe nous dit ce qui se passe. Dans ce cas, le temps du verbe fait référence à quelque chose qu'ils recevront dans le futur. Que recevront-ils ? Puissance. Le livre de Actes montrera cette puissance dans le ministère des apôtres. Activité. Travailler avec le reste du verset en répondant à ces questions. Quand recevront-ils le pouvoir ? Qui leur donnera le pouvoir ? Quel est le résultat du pouvoir ? La puissance précède le témoignage. Le résultat naturel de cette puissance sera le désir de partager l'Évangile avec les autres. De qui seront-ils témoins? Où témoigneront-ils? Que savez-vous de ces quatre endroits? Qu'est-ce qui est spécial à propos de la Samarie? Ces apôtres juifs voulaient-ils y aller? Améliorez vos capacités d'observation. Charles avait une mauvaise vue. À l'école, il ne voyait pas bien son professeur. Il ne pouvait pas lire les mots sur le tableau noir au fond de la classe. Puis un jour, il a commencé à porter des lunettes. Soudain, il a vu des choses qu'il n'avait jamais vues auparavant. Il voyait clairement le visage de son professeur. Il pouvait facilement lire ce qui était écrit au tableau. Il était tellement excité. L'observation attentive est comparable au port de lunettes pour corriger une mauvaise vue. Apprendre à observer l'écriture améliore notre compréhension de ce qu'elle dit. L'exercice sur Actes 1-8 montre à quel point vous observez bien ce que vous lisez. Étudions quelques conseils pour améliorer votre capacité d'observation. Vous apprendrez à poser des questions pour mieux comprendre l'écriture. Vous vous entraînerez ensuite à lire d'autres versets. Lorsque vous lisez un verset de la Bible, ne dites pas « Je connais déjà ce verset ». Demandez plutôt à Dieu de vous ouvrir les yeux sur sa parole d'une manière nouvelle. Les outils de cette leçon peuvent vous aider à lire avec une nouvelle perspective. Les étapes de cette leçon sont tirées des chapitres 8 à 17 de « Living by the Book » de Howard G. Hendrix et William D. Hendrix, Chicago, Moody Publishers, 2007. Vous pourrez vous entraîner et obtenir des explications supplémentaires en lisant ces chapitres. Lire pour comprendre. Un garçon de 10 ans décida de lire la Bible en entier chaque année. C'était une bonne résolution. Malheureusement, il ne savait pas lire la Bible efficacement. Il avait un calendrier indiquant le nombre de chapitres à lire chaque jour, mais il prenait souvent du retard. Le dimanche après-midi, il essayait de rattraper son retard. Il consultait son calendrier et constatait qu'il avait 20 chapitres de retard dans Lévitique. Alors, il lisait tout Lévitique en un après-midi. Il lisait aussi vite qu'il le pouvait, essayant d'aller jusqu'au bout. 10 minutes après avoir terminé, il n'aurait pas pu vous transmettre le message de Lévitique. Il lisait sans comprendre. Lire pour comprendre est un travail difficile. La Bible décrit ainsi la recherche de la vérité. Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Proverbes 2, 4 à 5. Lisez attentivement l'Écriture, posez des questions, prenez des notes, lisez avec votre esprit. Vous pouvez parfois acquérir une nouvelle compréhension en paraphrasant l'Écriture avec vos propres mots. Même si votre paraphrase n'est pas une traduction savante, elle peut vous aider à approfondir le sens du texte. Posez des questions pendant que vous lisez. La clé pour lire avec votre esprit est de poser des questions. Activité. Lisez Luc 24, 13 à 35 avant de poursuivre cette section. Pendant que vous lisez la leçon, revenez à Luc 24 pour répondre à chaque question. Un qui ? Qui sont les personnages du texte ? Que savez-vous de chacun d'eux ? Qui étaient les personnages mentionnés dans Luc 24, 13 à 35 ? Cléopas et un compagnon anonyme. Une tradition suggère que Luc était le compagnon anonyme, ce qui expliquerait la quantité de détails dans l'histoire. Se rendaient à Emmaüs le jour de la résurrection. Ils étaient aux disciples de Jésus et connaissaient ses miracles et ses enseignements. Ce dimanche-là, ils furent les premiers à entendre les souffrances et la résurrection du Christ expliquées par Jésus lui-même. Ils furent parmi les premiers témoins de la résurrection. 2. Quoi ? Que se passe-t-il dans le texte ? S'il s'agit d'un texte historique, quels événements s'y déroulent ? S'il s'agit d'une épître, que cherche à enseigner l'auteur ? Dans Luc 24, l'événement fut la révélation de Jésus. Les yeux de ces deux hommes furent ouverts à la réalité de la résurrection de Jésus. Luc 24, 31. 3. Quand ? Comme pour la question précédente, le temps fournit un contexte à notre lecture. Lors de l'observation de l'étude biblique, nous recherchons des détails sur le temps dans le texte lui-même. Luc 24, 13, nous apprend que le voyage vers Emmaüs a eu lieu le jour même de la découverte du tombeau vide. Ces deux disciples rencontrent Jésus quelques heures seulement après que le tombeau a été trouvé vide. Cela nous en dit long sur leurs sentiments pendant qu'ils discutaient et raisonnaient. Luc 24, 15. Pensez au haut et au bas émotionnel que ces deux hommes ont vécu au cours des 3 derniers jours. Le jeudi, ils avaient été désespérés en voyant Jésus arrêté. Le vendredi, leurs espoirs d'un royaume messianique furent anéantis par le dernier soupir de Jésus. Maintenant, c'était dimanche et le tombeau était vide. En route vers Emmaüs, ils cherchèrent à comprendre ces mystérieuses séries d'événements. 4. Où ? Il est souvent utile de se demander où cela s'est-il produit. Un atlas biblique peut vous aider à trouver des réponses à cette question. Certaines Bibles comportent des cartes dans leur dernière page. Dans Luc 24, Cléopas et son compagnon voyagent de Jérusalem à Emmaüs, un village situé à environ 11 km à l'ouest de la ville. Le temps qu'ils parcourent cette distance, le soir était arrivé. Mais, après qu'ils eurent les yeux ouverts, ces hommes retournèrent à Jérusalem tout joyeux. Cette nouvelle ne pouvait attendre le lendemain. 5. Pourquoi ? Nous comprenons pourquoi ces disciples étaient aussi découragés lorsque nous répondons à la question du timing. Ils étaient se découragés parce que tout espoir d'un Messie s'était évanoui à la mort de Jésus. 6. Comment ? Comment la vie de ces disciples a-t-elle été transformée par cette rencontre ? Ils sont retournés à Jérusalem convaincus que Jésus était ressuscité. Comme des millions de personnes depuis, leur vie a été transformée à jamais par la résurrection. Lisez le même passage ou le même livre plusieurs fois. G. Campbell Morgan fut l'un des plus grands prédicateurs du XXe siècle. Morgan n'a jamais fréquenté d'école biblique, mais il devint un enseignant biblique efficace. Avant de prêcher sur un texte, Morgan lisait au moins 40 fois le livre entier de la Bible contenant son texte choisi. Ce faisant, Morgan apprenait comment chaque verset s'insérait dans le livre. Il en connaissait les thèmes importants et comprenait le message de l'auteur. Morgan a dit un jour « La Bible ne se laisse jamais aller à la paresse. L'étude de la Bible est un travail ardu. » Vous vous demandez peut-être « Comment puis-je lire un livre de la Bible 40 fois? Je ne finirai jamais la Bible. Ce n'est peut-être pas aussi difficile que vous le pensez. La plupart des adultes lisent 200 mots par minute. Ils peuvent en lire 12 000 en une heure. 44 livres de la Bible contiennent moins de 12 000 mots. Cela comprend les lettres de Paul, les épîtres générales, les petits prophètes et les livres de l'Ancien Testament de Ruth, Esdras, Néhémie, Esther et Daniel. En une heure par jour, vous pourriez lire les livres des Éphésiens, des Philippiens, des Colossiens et 1er et 2e Thessaloniciens 40 fois en 40 jours. La lecture d'un livre entier montre comment il est organisé. Nous avons lu précédemment Actes 1-8, où les disciples furent envoyés comme témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. En relisant Actes, vous constaterez que cela constitue un modèle pour l'ensemble du livre. Au début de Actes, la persécution conduit les disciples de Jérusalem vers le reste de la Judée. Dans Actes 8, Philippe porte l'évangile en Samarie. À la fin de Actes, Paul prêche à Rome, d'où l'évangile se répandra jusqu'aux extrémités du monde connu. Quelques conseils pour lire à plusieurs reprises. 1. Lisez la Bible à voix haute ou écoutez-la être lue. Dans les cultures qui dépendent de l'écrit, les gens oublient de souvent que la plupart des premiers chrétiens entendirent la Bible être lue. Lorsque l'église d'Éphèse reçut la lettre de Paul, elle n'en fit pas de photocopie pour chaque membre. Un responsable lut la lettre aux autres membres. Tout au long de l'histoire, beaucoup plus de personnes reçurent la parole de Dieu par l'écoute que par la lecture. Les épîtres de Paul étaient lus dans les églises, les prophètes transmettèrent leurs messages. En lisant une épître à haute voix ou en écoutant sa lecture sous forme de livre audio, vous entendrez la parole de Dieu proclamée de la même manière que l'église primitive entendait l'écriture. FaithComesByHearing.com propose des Bibles audio dans plus de 700 langues. 2. Lisez la Bible dans différentes traductions, si plus d'une traduction est disponible dans votre langue. Certaines sont plus techniques, d'autres visent à faciliter la compréhension. Lire plusieurs traductions peut vous permettre d'acquérir une nouvelle compréhension du message. Si vous connaissez plus d'une langue, il peut être utile de lire l'écriture dans une deuxième langue. BibleGateway.com vous donne un accès gratuit aux traductions de la Bible dans de nombreuses langues. 3. Concentrez-vous sur des éléments différents à chaque lecture. Par exemple, une personne pourrait lire Genèse 3 une fois par jour pendant une semaine, en considérant le récit sous un angle différent à chaque fois. Lundi, lire Genèse 3 du point de vue du Père Céleste. Que ressent le Père en voyant le péché de ses enfants? Mardi, quel est le verset le plus important du chapitre? Mercredi, lire Genèse 3 du point de vue de Satan. Comment tente-t-il de détruire la relation de Dieu avec ses enfants? Jeudi, lire Genèse 3 tout en considérant le sacrifice de Jésus sur la croix. Vendredi, lire Genèse 3 du point de vue d'Adam et Ève. Qu'ont-ils ressenti en entendant le jugement de Dieu? Samedi, lire Genèse 3 du point de vue de quelqu'un qui lit la Bible pour la première fois. En quoi cette histoire est-elle importante pour comprendre le reste de la Bible? Une sélection de plans est disponible sur bible.com pour vous permettre de lire la Bible entière en un an. Un autre plan, basé sur le modèle de G. Campbell Morgan, consiste à lire un livre plusieurs fois par mois. Puisque 44 livres de la Bible peuvent être lus, en une heure ou moins, vous pouvez lire un livre 30 fois par mois, en une heure ou moins par jour. Bien que cette méthode puisse paraître lente, la lecture répétée d'un livre vous permettra d'approfondir votre compréhension de la parole de Dieu. En lisant de cette manière, vous pourriez lire la Bible entière 30 fois en 6 ans. Les livres plus longs seront équilibrés par des livres courts comme Philémon et Tite qui peuvent être lus 30 fois en quelques jours seulement. Étudier la grammaire. Dieu communique avec nous de multiples façons, principalement par l'écrit. S'il n'est pas nécessaire d'être linguiste pour comprendre l'écriture, mieux on comprend le langage écrit, mieux on saisit les vérités profondes de la parole de Dieu. À titre d'exemple, nous étudierons la grammaire de l'un des versets les plus connus de Paul. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12:1. En examinant la grammaire d'un texte, nous regardons au verbe. Les verbes communiquent l'action ou l'être. Il y a deux verbes d'action dans Romains 12:1. Exhorte signifie implorer ou même supplier. Ressentez-vous l'urgence de la requête de Paul? Ce n'est pas une suggestion anodine. Il y a une profonde émotion lorsque Paul implore ses lecteurs de se donner pleinement à Dieu. Offrir est un verbe actif. Il exige un engagement. Paul appelle ses lecteurs à présenter leur corps, à se donner à Dieu. Nom. Dans Romains 12, les noms qui sont importants pour notre étude incluent « frère », Paul écrit aux croyants, il n'appelle pas les pécheurs à la conversion, il appelle les croyants à une consécration plus profonde. Corps. Le reste de Romains 12 montre que le corps représente notre être tout entier. On pourrait paraphraser cela, donnez-vous tout entier. Compassion. L'appel de Paul repose sur la miséricorde de Dieu. Dans le passage qui précède ce verset, Paul décrit la miséricorde que Dieu témoigne à tous, juifs et gentils. Romains 11, 32. Sacrifice. Sous la loi de Moïse, un adorateur offrait un animal en sacrifice. Dans le royaume du Christ, nous sommes appelés à nous donner pleinement en sacrifice vivant. Modificateur. Les adjectifs et les adverbes sont des mots descriptifs qui élargissent le sens des mots qu'ils modifient. Howard G. Hendrix et William D. Hendrix, Living by the Book, Chicago, Moody Publishers, 2007, page 121. Dans Romains 12, 1, le sacrifice est modifié par une série de mots. Notre sacrifice est vivant. Nous ne sacrifions plus un animal mort. Nous donnons notre vie dans un abandon quotidien. Notre sacrifice doit être saint. Un fidèle de l'Ancien Testament ne pouvait pas offrir un animal boiteux ou mutilé en sacrifice. Un croyant du Nouveau Testament ne peut pas offrir une vie impure et désobéissante en sacrifice. Seul un sacrifice complet et volontaire est agréable à Dieu. Groupe prépositionnel. Les prépositions sont des mots tels que « à », « dans », « pour », « avec », « sans », « par », « sur », etc. Ces petits mots ont une signification plus large. Dans Romains 12, un, deux groupes prépositionnels sont importants. Par les compassions de Dieu, nous donne le fondement de l'appel de Paul. Il ne s'agit pas de la reddition réticente d'un soldat à un ennemi, il s'agit plutôt de l'abandon joyeux d'un enfant à la volonté d'un père aimant. Notre sacrifice doit être acceptable à Dieu. Pour le chrétien, l'approbation de Dieu est la récompense ultime. Connecteur logique. Les connecteurs logiques et ou mêlés sont puissants. Un auteur les compare au ciment qui maintient les briques ensemble. J. Scott Duval et J. Daniel Hayes, Grasping God's Word, Grand Rapide, Zondervan, 2012, page 59, dans Actes 1-8, nous avons vu que « mais » renvoie à l'incompréhension des disciples. Dans Romains 12, 1 donc renvoie au passage précédent. Si l'on lit l'Épître aux Romains dans son intégralité, on remarque rapidement deux grandes divisions. Romains 1 à 11 enseigne la doctrine, la condamnation du péché, la justification par la foi, la sanctification du croyant, la glorification comme dessein ultime de Dieu pour ses enfants et l'élection comme moyen de Dieu pour accomplir ce dessein. Romains 12 à 16 illustre l'application pratique de cette doctrine. Parce que nous sommes justifiés devant Dieu, voici comment nous vivons. À cause de ce que nous croyons, Romains 1 à 11, voici ce que nous faisons, Romains 12 à 16. Le verset de liaison est dès Romains 12, 1. Donc, est un marqueur important dans de nombreuses lettres de Paul. Après avoir rappelé aux croyants de Galates la grande vérité de la justification par la foi seule, Paul les a appelés à vivre leur justification dans la pratique quotidienne. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Galates 5, 1. Après avoir enseigné aux Éphésiens la grande doctrine de leur élection en Jésus-Christ, Paul les a appelés à mener une vie digne de cet appel. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Éphésiens 4, 1. Paul dit aux Colossiens qu'ils étaient à mort et que leur vie était cachée avec Christ en Dieu. Comment devraient-ils vivre en conséquence ? Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Colossiens 3, 5. Recherchez des détails particuliers dans le texte. Cette liste est adaptée de J. Scott Duval et J. Daniel Hayes, Grasping God's Word, Grand Rapids, Zondervan, 2012. Reconnaître les techniques utilisées par les auteurs bibliques pour souligner les idées importantes du texte peut apporter un nouvel éclairage à votre étude. Voici quelques détails à surveiller. Mots répétés. Lorsqu'un auteur répète fréquemment un mot, cela souligne une idée importante. Lors de l'observation, vous n'explorerez peut-être pas toutes les significations profondes du mot répété, mais vous voudrez le marquer et vous demander pourquoi ce mot est-il répété. Activité, lisez les passages suivants et marquez les mots répétés. 2 Corinthiens 1, 3 à 7. Combien de fois le mot consolation est-il utilisé dans ce passage? Exemple de question à poser lorsque vous remarquez une répétition dans ce passage. Est-ce que consolation est utilisé de la même manière à chaque fois? Quels modificateurs sont-ils utilisés? Toute consolation, notre consolation, votre consolation. Jean 15, 1 à 10. Combien de fois le mot « demeurer » est-il répété dans ce passage? Exemple de question que vous pourriez poser lorsque vous remarquez la répétition dans ce passage. Quelles sont les conditions pour demeurer en lui? L'avertissement de ce passage implique-t-il qu'il est possible de ne pas demeurer en lui ? Quelles sont les conséquences de ne pas demeurer en lui ? Quelles sont les bénédictions de demeurer en lui ? Contraste. De nombreux auteurs bibliques opposent des personnes ou des idées. Quand on voit le mot, mais au milieu d'un verset, il peut relier deux idées opposées. De nombreux proverbes utilisent ce type de contraste. Il y a deux manières de répondre à une critique. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Proverbe 15:1. Il y a deux manières de prendre une décision importante. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Proverbe 11:14. Notre traitement des pauvres montre notre attitude envers Dieu. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Proverbe 14:31. Les auteurs du Nouveau Testament font également des contrastes. Paul a contrasté nos anciennes vies, ténèbres, et nos nouvelles vies, lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Éphésiens 5:8. Dans 1 Jean 1:5-7, Jean oppose les ténèbres et la lumière de deux manières. Dieu est lumière, et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous sommes en communion avec Dieu, nous marcherons dans la lumière et non dans les ténèbres. Comparaison. Le contraste examine les différences. La comparaison examine les similitudes. Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Proverbe 10:26. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Proverbe 25:25. Activité. Lisez Jacques 3:3-6. La langue est comparée à trois choses. Lesquelles ? Que pouvez-vous apprendre de ces comparaisons ? Chaque verset de Proverbe 26:7-11 contient le mot « comme ». Étudiez la comparaison pour chaque verset. Par exemple, si vous lisez Proverbe 26:7, vous vous diriez « Un proverbe dans la bouche des insensés est comme les jambes d'un boiteux ». Car, quelle similitude voyez-vous entre un proverbe prononcé par un insensé et les jambes d'un boiteux ? Liste. Lorsque vous lisez la Bible, vous devez mettre en évidence des listes et les étudier pour en identifier les caractéristiques importantes. Activité. Avant de continuer la leçon, prenez le temps de lire les listes suivantes. Dans 1 Corinthiens 3:6, Paul montre les étapes de son ministère à Corinthe. 1 Jean 2:16 énumère les choses qui viennent du monde plutôt que du Père. Galates 5:19-21 énumère les œuvres de la nature pécheresse. Galates 5:22-23 énumère les fruits de l'esprit. Déclaration d'intention. Des mots tels que, de sorte que ou à décrivent-nous souvent la motivation ou le résultat d'une action. Prenez le temps d'examiner le lien entre le but et le résultat. Demandez-vous pourquoi l'Écriture donne cette instruction. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Pourquoi ? Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, Jean 15:16. Je sers ta parole dans mon cœur. Pourquoi ? Afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119:11. En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pourquoi nous a-t-il élus ? Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Éphésiens 1:4. D'autres fois, la déclaration montrera comment l'objectif est atteint. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ? Psaume 119:9. Comment pouvons-nous être assurés de la vie ? Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Romains 8:13. Clause conditionnelle. Les clauses commençant par « si » indiquent souvent une condition. Les lecteurs s'attendent parfois à ce que les promesses bibliques se soient accomplies sans que la condition soit remplie. Cependant, une promesse conditionnelle repose sur la réalisation d'une condition spécifique. On le voit souvent à travers une clause conditionnelle. Condition, si quelqu'un est en Christ. Résultat, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5:17. Condition, si vous demandez quelque chose en mon nom, résultat, je le ferai. Jean 14:14. Priez pendant que vous lisez. Cette dernière instruction peut paraître évidente, mais elle est importante. Pour le chrétien, l'étude de la Bible et une vie de prière ne doivent-elles jamais être séparées ? Séparer la lecture de la Bible et la prière, c'est séparer deux aspects de notre conversation quotidienne avec Dieu. Jacques nous assure que nous pouvons demander l'aide de Dieu quand nous manquons de sagesse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, Jacques 1, 5. C'est une merveilleuse promesse lorsque nous avons besoin de l'aide de Dieu pour comprendre la parole de Dieu. psaume 119 montre le lien entre la prière et l'écriture. Le psalmiste demande à plusieurs reprises à Dieu de guider son étude de la parole de Dieu. De la même manière, nous pouvons rechercher l'aide de Dieu dans notre étude. « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Psaume 119, 18. « Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances. » Psaume 119, 27. « Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts. » Psaume 119, 33. De nombreuses personnes ont découvert le pouvoir de transformer en prière les paroles de l'Écriture. Essayez de transformer ces passages en prières personnelles. Psaume 23, une prière pour la direction et la protection de Dieu. Ésaïe 40, 28 à 31, une prière pour la force de Dieu. Philippiens 4, 8 à 9, une prière pour un esprit pieux. Leçon 2, point clé. 1. Commencez le processus d'observation en étudiant un seul verset. Posez autant de questions que possible sur ce verset. 2. Les étapes pour améliorer votre pouvoir d'observation comprennent lire pour comprendre, poser des questions pendant que vous lisez. Qui, quoi, quand, où, pourquoi, comment. Lisez le même passage ou le même livre plusieurs fois. Étudiez la grammaire, recherchez, verbe, nom, modificateur, groupe prépositionnel, connecteur logique. Recherchez des détails particuliers dans le texte, recherchez, mots répétés, contraste, comparaison, liste, déclaration d'intention, clause conditionnelle, priez pendant que vous lisez,